Direct en jeu, la radio insolite, quel bonheur. Je vais accueillir deux personnes ce matin. Oh, Tristan et... Non, c'est pas, pardon. Non, c'est pas Tristan et Iseu que je vais accueillir. Je suis en train de dire une bêtise. Je recommence. Bonjour à tous, bienvenue. Non, c'est Florian et Maïs. Non, c'est Tristan et Iseu. C'est qui que j'accueille en fait? Bonjour, vous êtes qui les deux là?
Maëlys et Florian.
Bah, pourquoi est-ce qu'on m'a dit Tristan et Iseu alors?
Bah, parce que Florian joue Iseu peut-être. Et toi, moi je mets en scène le spectacle.
Ah ben non. Ah mais toi t'es pas sur scène.
Si, je joue la narratrice. Raconte l'histoire.
J'aime bien, ça se joue une narratrice.
Eh ben oui. Surtout que là, la narratrice, elle est pas que narratrice, mais je veux pas en dire trop parce que sinon ça gâche la surprise.
Ah ben exactement. Bon, qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie les deux?
Alors, ouais, vas-y, je vais commencer si tu veux. Donc, moi, je suis Maëlys Saint-Bozel, donc je suis comédienne d'abord et puis metteuse en scène ensuite. J'ai adapté donc l'histoire de Tristan et Iseu dans une pièce de théâtre qui dure 1h10. Donc ça, c'est un travail qui a pris un peu de temps et j'ai été beaucoup aidée, notamment par Florian et les autres comédiens, parce qu'on a fait pas mal de travail au plateau. Mmh. Et donc, ce spectacle, on a commencé à le monter en 2022 en Bretagne. Et il a fait son chemin, il a vécu. Comme on aime bien dire, la nef, elle a un peu parcouru toutes les mers. Et finalement, cette année, on revient avec une nouvelle version qui est plus courte, qui est plus dynamique et plus variée aussi, puisqu'on a rajouté de la danse et des nouvelles chansons. Donc, on a créé des chansons spécialement pour le spectacle. Et donc, les comédiens chantent en live pour raconter cette histoire, parce que l'idée, c'est de revenir un petit peu... aux origines de ce qu'est raconter une histoire, surtout dans la tradition celtique. Et donc, raconter une histoire, ça passait souvent justement par la musique. Donc, voilà, ça nous tenait à cœur.
Et c'est qui a composé la musique?
Alors, moi, j'ai composé l'air, si tu préfères, la mélodie
tout fait exprès, la
et
question,
les paroles.
Je le dis franchement.
Et si tu veux, on est entouré de merveilleuses personnes, notamment Constantin Alaïm Alaïs, qui est musicien, et qui donc, lui, a composé les accompagnements. Donc, il a embelli clairement les idées que j'avais, quoi.
D'accord. Bon, et toi, Floriane, alors?
Eh ben moi, je suis donc comédienne sur le projet. Je suis comédienne d'abord dans la vie, mais j'assiste aussi Maïs sur le spectacle, parce que, comme tu as pu entendre, il y a beaucoup de points différents à travailler, danse, chant, jeu, et comme elle joue aussi, voilà, c'est bien de pouvoir avoir de temps en temps un œil extérieur, qui n'est pas tellement extérieur finalement, puisque je suis quand même beaucoup dedans aussi. Mmh. Et voilà, on a une grosse équipe. En plus, on est quand même 6 comédiens. Mmh. Donc, il y a tout à gérer, l'organisation et tout. Voilà. Mais je ne sais pas tellement quoi rajouter sur le projet, parce que Maïs vient d'en parler tellement bien que je ne sais pas quoi dire de plus.
Alors, moi, j'ai une question qui n'est pas une question piège. Qui a eu l'idée du nom de la compagnie?
Oh.
Déjà, personne ne sait comment s'appelle la compagnie. Donc là, il va falloir que vous le disiez.
Ah, c'est vrai.
Et après, voilà.
La compagnie du vent contraire.
Oui.
Alors, c'est en fait, c'est des personnes avec qui on a travaillé avant de monter ce spectacle, qui faisaient partie de la compagnie, mais qui ne travaillent plus avec nous aujourd'hui, qui avaient eu cette idée. Et puis, nous, ça nous parlait bien parce qu'il y a cette idée de vent qui est quand même puissant. On peut le voir d'ailleurs sur Avignon, les vents, le vent est quand même destructeur.
Mais non, il n'y a jamais de vent, il n'y a que de la canicule à Avignon, voyons.
Voilà. Et donc, il y a cette idée d'aller dans le sens inverse, donc de ne pas suivre la foule, de ne pas suivre le vent contraire, c'est d'aller dans un autre sens. Mm-hmm. Et parce que c'est vrai qu'avec Maïs, on aime bien beaucoup se questionner, se dire « Ok, la facilité, ce serait d'aller là, mais est-ce qu'on a envie d'aller là ou est-ce qu'on a envie de se questionner, d'aller chercher un autre chemin ?» Et voilà, pour nous, c'était assez clair comme nom, et c'est pour ça qu'on continue avec. Je ne sais pas, Maïs, si tu veux redire autre chose.
Nous aussi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Il y a aussi cette idée qu'on a dans la compagnie d'apporter le théâtre là où il se fait rare. Donc, quand on vient à Avignon, effectivement, le théâtre n'est pas rare pour le festival, mais le reste de l'année, on essaye de faire jouer le spectacle vraiment partout, même pas forcément dans des théâtres, mais parfois dans des établissements scolaires, auprès de quartiers prioritaires, parce que c'est pour nous, c'est vraiment important que chacun puisse bénéficier de l'art, en fait, quel qu'il soit. Et peu importe d'où tu viens, peu importe tes moyens, les moyens de tes parents, tu dois avoir accès à la culture. Donc, on essaye de faire ça dans la compagnie. Et je trouve que ça va avec l'idée du vent contraire, parce que si on suivait le vent comme tout le monde, on irait jouer que à Paris, que à Avignon.
Exactement.
Et c'est pas ce qu'on souhaite.
D'accord. Alors, ce que j'aime bien, c'est que la philosophie de la compagnie, c'est que c'est un lieu d'expression, de transmission, d'échange, d'émancipation. Et alors, ce que j'ai bien aimé, c'est cette notion d'idée de public actif.
Ouais.
Ça veut dire, en résumé, qu'il ne faut pas se mettre au premier rang parce qu'on est sûr de monter sur scène. Non, j'exagère. Non, jamais vous ferez ça. Ah, vous faites chanter les gens, carrément. Ah, ben c'est bien.
Non, en fait, il y a différentes façons, tu me corriges, Flo, si je dis n'importe quoi, d'être actif. C'est-à-dire que, par exemple, on a le tout premier spectacle de la compagnie, c'était J'appelle mes frères, une pièce de Jonas Hassen Kemiri, qu'on a joué notamment grâce au CIPDR dans les quartiers prioritaires. Et là, le public était actif dans le sens où c'était toujours accompagné d'un échange. En fait, cette pièce-là, parce qu'elle traitait de sujets un peu compliqués, mais il y avait vraiment cet échange avec le public, donc il était obligé de participer, entre guillemets, de cette façon-là d'abord. Et ensuite, évidemment, pendant le spectacle, il n'est pas question qu'il s'endorme. Ou alors, on est vraiment très mauvais, mais il faut pas qu'il s'endorme. Et après, ben, dans Tristan et les œufs, la mise en scène, alors, ça, c'est pas toujours permis, parce que ça dépend des configurations des lieux où on joue. Mais elle est plus immersive, c'est-à-dire que parfois, ben, le public se retrouve embarqué dans une nef en plein orage, en plein milieu de la mer, quoi. Donc, on essaye vraiment de l'inclure et de casser le quatrième mur de différentes façons, et ça dépend des spectacles. Donc, parfois, on peut même carrément aller effectivement à l'échange avec lui, notamment sur la Reine des Neiges. On va un petit peu dans le public parce que ça fait rire les enfants. Mais il y a différentes façons d'être actif. Et pour l'instant, on n'a jamais fait monter quelqu'un sur scène en plein milieu d'un spectacle. Parce que moi, personnellement, je sais que je serais gênée. Donc, je ne veux pas faire ça aux gens.
Ouais. Et c'est vrai que tu parlais de casser le quatrième mur. Et effectivement, notamment dans J'appelle mes frères et Tristan et Iseu, il y a vraiment cette... J'appelle mes frères, c'est un personnage qui raconte son histoire directement au spectateur. Mmh. Et dans Tristan et Iseu, il y a effectivement la narration qui raconte aussi directement au spectateur, et donc il y a une forme où on se sent plus concerné puisqu'on vient nous raconter à nous directement une histoire, je trouve.
Ouais, l'adresse est directe, quoi. C'est ça.
D'accord. Vous collez au récit Tristan et Iseut, vous l'avez un peu adapté?
Alors, on l'a adapté quand même. On a gardé beaucoup, beaucoup, mais on a aussi inventé certains personnages, certains passages, parce que on se disait que ça allait en fait dans l'histoire de cette légende, c'est-à-dire qu'elle est... Aujourd'hui, c'est très compliqué de pouvoir dire quand est-ce qu'elle est née et où est-ce qu'elle est née exactement, parce que les légendes se transmettaient à l'oral. Donc, il n'y a pas de traces écrites, en tout cas au début. Et à partir du Moyen-Âge, on commence à avoir des écrits, mais très différents. Et les historiens sont d'accord pour dire qu'en fait, elle a voyagé et que chaque conteur a un peu rajouté ce qu'il avait envie, des nouveaux chapitres, transformé certains passages. Et donc, on s'est dit que nous aussi, on allait faire notre version. Donc, on a voulu aussi l'adapter à maintenant, hein, parce qu'on ne peut pas raconter une histoire aujourd'hui comme on l'a racontée avant, surtout par rapport à la place de la femme, par exemple, qui est quand même très bafouée dans cette légende.
Tout à fait.
Donc, on a voulu la renforcer, on lui a donné plus de pouvoir. Et ça allait aussi avec les légendes celtiques où toute femme est une fée, en fait. Donc, on a créé une fée, par exemple. On a enlevé aussi beaucoup d'aspects religieux, voilà, qui avaient été rajoutés au Moyen-Âge. On a donné plus de place, si tu veux, à la magie.
D'accord. Je tiens à signaler quand même que c'est une réalité, toute femme est une fée.
D'accord. Ouais.
Alors, il y a un truc qui m'ennuie dans ce que tu viens de me dire. On ne pourra pas dormir durant le spectacle. Donc, il faut faire attention comment est-ce qu'on mange. Parce que le spectacle, il joue à 14h50. C'est l'heure de l'assiette, logiquement, 14h50. Donc, on ne peut pas dormir.
Non, mais il fera frais. Puis, vous serez tellement emporté. Je pense qu'il n'y aura pas de souci.
D'accord. OK. ça fait quoi le fait d'aller en Avignon pour présenter un pareil spectacle?
Ça fait peur.
Ah, carrément.
Ah, oh, bah ça fait toujours un petit peu peur, mais c'est excitant aussi. En fait, il y a beaucoup de choses à penser, à organiser pour que ça se passe bien et que sur place, on soit justement focus seulement sur le spectacle. Mais en même temps, c'est hyper excitant parce qu'on va raconter notre histoire à plein de gens, que ce soit en tractant pour leur demander de venir voir le spectacle et que ce soit à la sortie du spectacle pour discuter de ce qu'ils ont ressenti, de ce qu'ils ont pensé, de ce qu'ils ont envie d'échanger. Voilà, donc c'est une expérience qui est super et moi je suis très fière qu'on puisse le faire, quoi.
Ouais, moi aussi je suis assez fière aussi de ramener la langue bretonne en fait dans le sud. Mmh. Parce qu'elle est très peu connue dans le sud, c'est normal, mais je pense aussi que les gens seront curieux de ça parce que dans le sud aussi il y a beaucoup de langues qui sont un peu en voie de disparition et tout donc je pense que les gens peuvent être touchés par ce geste aussi.
D'accord. Est-ce qu'il faut comprendre par là que le spectacle va se jouer en breton et qu'il y aura une traduction?
On joue en français. Hein? on joue en français, même si j'aurais beaucoup aimé le faire en breton, mais alors ce serait vraiment compliqué. Mais par contre, on chante en breton.
D'accord. Ok. je serais tenté à dire, ça ressemble à quoi une chanson en breton?
Alors, faut venir voir le spectacle pour le savoir. C'est très beau une chanson en breton.
C'est pas ce que je voulais dire. J'étais sûr que j'allais me trouver confronté à une situation pareille. Vous trichez en fait, parce qu'officiellement, le festival commence le 4 juillet. Mais vous commencez le 3.
On est comme ça. On commence direct. On ouvre.
D'accord, ok.
Oui, on a décidé d'ouvrir notre général pour que le public puisse venir à voir le spectacle, parce que c'est vrai que les touristes qui viennent au festival restent peut-être 3-4 jours en général.
Exact.
Et donc, ça leur fait un gros rush de spectacles. Donc, on s'est dit, là, ils ont une journée en plus pour choisir des spectacles. C'est bien.
Oui, puis ça permet aux Avignonnais de venir avant que la marée humaine arrive sur le festival et tout, et que tout soit pris d'assaut, quoi.
Exactement. Ouais.
Vous avez un rêve? C'est quoi votre rêve?
Oh, c'est dur.
Oh, c'est trop.
Le premier, ça serait de jouer en Bretagne, je suppose.
Ah oui, ce serait incroyable. Mm-hmm. Ouais. Un et rêve, alors je pense que ce serait de jouer en Bretagne et que Tristan et Iseu arrivent par la mer.
Ah oui.
D'accord, ok.
C'est... Oui,
tu, le meilleur moyen, c'est jouer sur une scène flottante, c'est encore plus simple alors, à ce moment-là.
Incroyable.
Pourquoi pas?
Oui.
Ok, donc je rappelle, c'est à la Nouvelle Étincelle, qui est une salle assez originale et assez sympathique, très chaleureuse, du 3 au 25 juillet, à 14h50. Et là, vraiment, vous allez pouvoir remettre un peu au goût du jour cette belle histoire qui est assez sympathique et tout. Merci à vous deux d'avoir pris ces quelques minutes pour nous expliquer tout cela.
Merci à toi.
Merci.